Et pour revenir un peu sur le quartier, par rapport à, enfin, toi, parce que toi, tu es imprimeur et tu fabriques des affiches, et ça, et dans le même temps, sur le quartier, on interdit l'affichage libre. Donc, comment toi, tu vois un peu cette nouvelle politique municipale?
Ouais, de toute façon, la politique municipale à Lyon, hein, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, hein, j'aimais presque encore mieux quand c'était la droite que la gauche, mais je la vois très très mal. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent de museler en fait l'expression, mais ça, je pense que c'est la société dans son ensemble. C'est-à-dire que tout ce qui est libre ou alternatif ou incontrôlable par les gens du pouvoir, ils en ont une peur bleue. C'est-à-dire que, en effet, une affiche posée sur un mur, un tag ou un slogan posé sur un mur, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et en fait, ce qu'ils aiment, c'est contrôler, parce qu'ils aiment contrôler, ils aiment tout contrôler. Ils ont peur, en fait, de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc, eh ben, on a fait des manifestations, hein, on a organisé une manifestation qui s'est très très mal terminée, bien sûr, avec les CRS aux fesses, un peu de gazage dans toute la Croix-Rousse, enfin, du ratissage après pour arrêter, si possible, quelques meneurs. Il y en a qui se sont fait arrêter, hein. Je crois qu'il y en a un qui a pris un peu de prison ferme, d'ailleurs, pour ça. Voilà, donc, en même temps, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire, j'imprime les affiches, je les colle pas forcément. Mais c'est vrai que c'est un truc que je conçois pas, parce que pour moi c'est la liberté d'expression. Il y a un slogan qui résume ça, hein. Je me rappelle même plus d'ailleurs, c'est mur blanc, peuple muet, non, c'est mur je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, et c'est encore un autocollant qui sort régulièrement, et on lutte régulièrement contre ça. Alors, pour parler plus concrètement sur le quartier, la mairie ou les conseils de quartier essayent justement de museler la parole des gens en disant on installe des panneaux associatifs où les associations ont le droit de coller. D'abord, ces panneaux, pour nous, ils sont trop petits, hein, parce qu'on a besoin de beaucoup de place pour s'exprimer. Et puis, de toute façon, il y a tellement d'associations qu'il faut que les associations puissent s'exprimer de partout. Ensuite, c'est généralement des panneaux qui sont recouverts relativement facilement par des gros trucs d'organisation de spectacles, genre les Rolling Stones, ou tu vois, des trucs où en fait eux ils ont les moyens de coller, ils passent deux fois par jour, etc. Ils mettent des affiches qui sont des 40 par 60 et ils se collent sur ces panneaux, ce qui est strictement illégal. D'ailleurs, c'est pour ça que la mairie a du mal à poursuivre les gens, c'est qu'en même temps ils ont le cul entre deux chaises. Ces gens-là n'ont pas le droit de coller sur ces panneaux, mais ils le font, donc il n'y a plus de place pour. Voilà, enfin. Mais cette politique, elle est en train de se mettre en place. Ils veulent une ville propre, saine et aseptisée. Il y a des gens qui trouvent laid une affiche sur un mur. Moi, ce que je trouve laid, c'est une voiture qui est garée dans la rue. On n'a pas la même conception des choses. Moi, une affiche, elle n'est pas forcément belle, mais si elle exprime quelque chose ou si elle dit quelque chose, ça fait partie de l'expression et de la libre expression. Pour eux, l'expression, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est l'encadrer. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire, de toute façon, même pour les événements culturels à Lyon. Maintenant, c'est très très difficile d'organiser un événement culturel alternatif, autogéré, sans avoir des ennuis avec la police municipale, ou sans demander une autorisation, parce que maintenant, si on ne demande plus d'autorisation, on n'occupe plus un espace public. Et eux, ce qu'ils ont fait par rapport à plein de choses qui étaient alternatives, autogérées, c'est-à-dire des petites compagnies de théâtre ou des théâtres même, ils ont tendance à les regrouper dans des associations pour leur filer des subventions, des choses comme ça. Ils veulent avoir le contrôle sur tous les moyens d'expression ou tout ce qui peut se faire. C'est pareil, ils nous ont créé, depuis que Monsieur Collomb est le maire, des trucs qui s'appellent les conseils de quartier, soi-disant la population qui participe aux décisions municipales. Au départ, c'était ça, hein. C'était un grand truc de gauche. De toute façon, il n'y a pas qu'à Lyon que ça se fait. Et puis, c'était un de leurs grands discours. Ils continuent à le faire, de toute façon. Et en fait, ces trucs sont consultatifs. Et puis, ils y ont mis un mode de fonctionnement institutionnel qui fait que, de toute façon, non seulement c'est consultatif, mais non seulement, en plus, les problèmes qui sont discutés dans ces conseils de quartier, en gros, c'est les crottes de chiens, le stationnement, les murs sales, donc l'affichage et tout ce qu'ils appellent, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais la beauté du quartier, quoi. En fait, ils mettent pas vraiment sur le terrain les vrais problèmes qu'il y a dans le quartier. C'est-à-dire que si le quartier, des fois, est sale, pourri, etc., c'est qu'il y a des problèmes sociaux derrière. Il y a aussi le fait qu'une partie de la population qui est défavorisée, parce qu'il y a quand même, c'est quand même un quartier où il y a encore une mixité sociale qui existe encore, en ont marre de voir arriver des gens qui sont pleins de thunes. Moi, par exemple, j'en ai marre de voir les rez-de-chaussée spoliés et transformés en appartements, parce que c'est autant de local qui pourrait servir à créer des activités pour des associations, pour les jeunes du quartier, pour les plus vieux du quartier, etc. Et non, la mairie, elle laisse faire. Et la plupart des rez-de-chaussée, par exemple, là, on est rue Burdeau. La rue Burdeau, elle a été rebaptisée dans les années 60. Elle s'appelait la rue du commerce. Le seul commerce qu'il y a dans la rue, c'est l'imprimerie, et encore c'est pas un vrai commerce puisque c'est une association, donc ça n'a pas une activité vraiment commerciale. Et il y a un bar
Jean-Claude,
il y a la brocante, hein, et la brocante de Jean-Claude, ouais. Il y a la brocante de Jean-Claude qui lui aussi est fils de brocanteur de la rue Burdeau. Voilà, mais par exemple c'est une personne, on est complètement différent. C'est une personne, on se croise, c'est lui que j'ai croisé tout à l'heure quand j'étais à la bourre, on se dit toujours bonjour. Et pourtant, on n'a pas forcément la même façon de voir les choses, etc. Mais il y a cette vie qui fait que, cette vie de quartier qui fait que c'est des gens qu'on respecte et qui nous respectent aussi. Donc voilà quoi. Pour revenir sur ces affiches, tout ça, je pense que les gens, ils veulent aseptiser la vie. Les gens qui habitent le quartier, qui viennent s'installer, ils aimeraient un lieu propre, sain, qui fasse pas de bruit, et puis pouvoir vivre le cul peinard devant leur télé. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils sont pointés dans un quartier où les gens vivent les fenêtres ouvertes en plein été, gueulent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent très très fort, mettent la télé à fond. Les bars, on met la musique et on a envie de boire et on chante et on fait la fête. Et c'est un quartier c'est un quartier de fêtards. C'était un quartier où il y a eu toujours beaucoup énormément d'étudiants. Les appartements étaient pas chers parce qu'ils étaient vétus, vieux, etc. Donc il y a toujours eu beaucoup de jeunes qui ont habité ce quartier-là. Et l'évolution, justement, a fait que ces jeunes partaient parce qu'ils rénovaient, les appartements augmentent, les jeunes étudiants ont plus les moyens de se payer ces appartements. Et les gens qui s'installent, pour certains, hein, pas tous, aimerait que ce soit je sais pas, comme à Genosse ou à Miribel ou qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il soit peinard, et c'est pas possible. C'est pas possible, les rues sont étroites, les immeubles sont grands, il y a du monde. Et moi je pense que le bruit comme les affiches, comme les bombages, comme tout fait partie de la vie. Il y a un seul truc qui moi me gêne, c'est que ces gens-là sont toujours en train de critiquer la saleté, comme ils appellent ça, hein, les bombages, les autocollants, mais ils sont tellement à avoir des voitures maintenant que ils tournent pendant des heures dans le quartier avec leur voiture pour trouver une place, et qu'ils disent en plus on manque de place, donc maintenant on creuse sous la Croix-Rousse pour faire des parkings pour eux. Mais moi quand j'étais gamin, il n'y avait pas autant de voitures dans le quartier, et maintenant tu trouves des familles, ils ont deux voitures. Moi, quand j'étais gamin, déjà avoir une voiture pour une famille du quartier, c'était déjà difficile. Voilà quoi. Il y a aussi le problème des travaux. Ouais, celui-là, je l'avais oublié. C'est vrai que c'est un quartier où on circule de rue en rue en passant par les allées. Alors ça date des canuts. Il y a des gens, à mon avis, bien plus spécialisés qui peuvent vous faire le cours d'histoire là-dessus. Et c'est vrai que ces travaux ont toutes été fermées. Mais de toute façon, maintenant, toutes les allées, même celles qui font pas de travaux, sont fermées directement de la rue. Et ça, c'est aussi une politique municipale et alors là, il y a même la préfecture et tout. C'est parce que, et puis même des gens qui viennent d'acheter des appartements, etc. C'est que ils privatisent et ils veulent vraiment qu'il y ait une délimitation entre chez eux et la rue. Et si jamais quelqu'un, un étranger, rentre chez eux, quelqu'un qui habite pas dans l'immeuble, ils ont la trouille, ils ont peur. Et on peut pas dire qu'à la Croix-Rousse, le quartier soit un des quartiers les plus criminogènes ou je sais pas criminels, où il y ait le plus d'actions criminelles au mètre carré, tu vois. Je pense que à mon avis c'est plutôt là où il y a une grosse concentration d'argent, là où il y a le commerce, c'est-à-dire pour nous la presqu'île, où il y a sans doute, à mon avis, le plus d'agressions, etc. C'est vrai que c'est un quartier où, bon, ouais, c'est un quartier où il y a eu des,
il y a
des dealers,
il y a plus de délinquance financière, quoi, c'est ça, dans le centre-ville.
En plus, bah, il y a plus de délinquance financière dans le centre-ville, même sur la Croix-Rousse, hein, parce que quand on voit la spéculation immobilière,
c'est de la délinquance financière.
C'est-à-dire que maintenant, ils sont capables de vendre. Enfin, nous, par exemple, en fait, pour revenir sur MAB, c'est un lieu qui a été squatté au départ. Donc l'imprimerie, en fait, était dans un tout petit recoin derrière le cul. Et la personne qui a créé ISA, en fait, a ouvert ce local et a été négocié directement, parce qu'il appartenait à la ville, a été négocié directement à la ville. Ça faisait 30 ans qu'il devait être vide. Et donc, on avait un bail précaire. Et on est devenu propriétaire, en fait, parce qu'à un moment donné, la ville nous laissait deux choix. Soit une augmentation de loyer avec des travaux minimum, c'est-à-dire qu'ils refaisaient juste la façade. Soit rien du tout. Moi, avec mon passif de squatteur, je me suis pas laissé faire et je me suis associé avec l'atelier de création libertaire, donc la maison d'édition, et on s'est pas laissé faire. Et
aujourd'hui, vous êtes propriétaire ici?
Pas encore totalement, mais oui, on peut dire qu'on est propriétaire. Disons qu'on n'a pas encore signé l'acte de vente, mais on a signé le compromis. Voilà.
Et alors, ton logement aussi, tu as réussi?
Non, mon logement, non, je suis locataire.
Un immeuble comme le 26 qui est autogéré, etc. Vous avez réussi à monter?
Non, moi je suis dans un logement social. Je suis père de famille, j'ai deux enfants et des petits revenus. Donc non, surtout parce que bon, ça c'est un peu particulier, c'est privé surtout. C'est bon, on s'est fait expulser d'un logement qu'on occupait, et il y a la loi qui dit que quand on a des enfants, il y a un relogement forcément obligatoirement d'urgence des services sociaux et de la préfecture qui s'occupe de ça. Et j'ai eu de la chance, en fait, de passer d'un logement très 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 cher au niveau du loyer et très très mal pris en charge par la CAF, à un logement directement pris en charge par la CAF. C'est-à-dire que mon loyer maintenant, il bat tous les records de nullité. Et c'est pareil pour ce local, parce que ce local, on l'a acheté une bouchée de pain à la ville de Lyon, parce qu'on était prioritaire, et pas parce qu'en plus il est en mauvais état. Ça se voit pas comme ça, les gens ils trouvent toujours ça très beau, mais ça tient avec des bouts de ficelle, c'est-à-dire que il a jamais été refait vraiment totalement. Mais si on parle de la comparaison entre le prix du local ici, même le prix du loyer qu'on payait avant, ou le prix où on l'a acheté, par rapport aux autres locaux qui se sont rénovés dans le quartier, ça va de 1 à 10. C'est-à-dire, le voisin qui a la galerie d'art, là, toute petite, nous, on a 130 mètres carrés quand même. Hein. Lui, il doit avoir 60 mètres carrés, il paye 5 fois plus cher que moi. Voilà, ça, voilà la délinquance financière. Et après, t'as des discours, par exemple, de la mairie qui te disent « Oui, mais on crée des activités et puis on veut en créer. » Alors, c'est vrai, ils en créent, hein, c'est les galeries d'art. Il n'y a pas grand monde qui y rentre parce que les tableaux à l'intérieur, ce n'est pas les gens du quartier qui vont les acheter. Et en fait, ils créent des activités, mais les gens, au bout d'un an, deux ans, trois ans, vu les prix des loyers, qui représentent en gros 50 à 60% de leur chiffre d'affaires. Donc, au bout d'un moment, s'ils ont une petite panne, un petit problème, ils ferment boutique. Et voilà, donc il y a une époque et une grosse mode de commerce équitable. Et moi, à la fin, ils étaient tellement nombreux que ça marchait un petit peu moins bien. Donc il y en a pas mal qui sont partis, enfin pas partis, mais qui ont fermé, bah, parce que tu peux pas payer des loyers de 700 à 800 euros pour des tout petits trucs, quoi. C'est pareil, hein, on n'a pas un seul boulanger, pas un seul boucher dans le quartier. Hein. On a des dépôts de pain, comme on appelle ça. Mais on n'a pas non plus, on n'a pas une seule. Si, il y a Casino qui s'installe vachement, mais Casino il s'installe un peu de partout, c'est comme le Crédit Agricole, là où ils peuvent, hein, ils s'installent et puis ça rapporte. Sinon, on a des épiceries arabes, comme on appelle ça, qui sont tenues par les arabes et qui eux font un peu comme nous, dans le sens où ils ont des locaux qui sont vieux, qui payent pas encore trop cher. Mais sinon, la vie commerciale du quartier, il n'y a pas une seule banque dans le quartier. Si tu veux trouver de l'argent, tu es obligé de monter sur le plateau ou de descendre en bas. Bon, dans un sens, nous, ça nous arrangeait à une époque. Maintenant, ça commence à me fatiguer parce qu'il faut monter ou descendre. Mais c'est vrai qu'à une époque, il y aurait une banque qui serait mise, on l'aurait cassée, je pense. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas un distributeur. Tu demandes à une banque de mettre un distributeur, ça serait possible. Hein, un commerce, il demanderait et tout. Il pourrait prendre. C'est une espèce de licence, je ne sais pas quoi, mais les banques, elles refusent. Ils ont peur. Parce que ça reste, mine de rien, là, encore un quartier malfamé. Il y a aussi un grand truc, hein, c'est les caméras de vidéosurveillance. Hein, ils en ont blindé une bonne partie de la Croix-Rousse, surtout vers le bas, et le centre-ville, donc la presqu'île, là où il y a tous les commerces et les délinquants financiers. La Croix-Rousse, ils ont eu un peu de mal à monter, mais ils grignotent, ils commencent à y arriver. C'est-à-dire que sur certaines parties, maintenant qu'ils sont devenus piétonnes, ils mettent, pour surveiller les plots, pour pas que les voitures passent, là, des plots qui montent et qui descendent, ils mettent des caméras. Mais en principe, la caméra, elle devrait surveiller le plot. Mais en fait, c'est des caméras rotatives à 360 degrés. Donc, ça, c'est la montée de la Grande Côte. Hein. C'est la nouvelle artère dont la mairie est super fière et tout. Il y a plein de commerces qui se montent et tout. C'est assez dégueulasse comme truc. Puis c'est un peu puant. C'est des trucs à touristes, en fait, pour nous. Et ben là, ça y est, hein, les caméras, elles sont arrivées. Alors, le prétexte, c'est pas de dire c'est surveiller la délinquance, tout ça. C'est de surveiller juste, de toute façon, les installations qu'ils ont faites. Pour pas que ça s'abîme trop vite, tu vois. Mais bon, de toute façon, ça s'abîme de toute façon.
C'est parce pas que... pour surveiller justement les caméras, pour que les caméras se surveillent
elles-mêmes. Ouais, alors ça, on sait pas, hein, parce qu'il y a deux caméras qui sont très célèbres. C'est les caméras qui sont vers la rue Sainte-Marie-des-Terreaux, et à l'angle de la rue Sainte-Marie-des-Terreaux, rue Saint-Polycarpe, impasse Saint-Polycarpe et rue Romarin. Pour nous, c'est le coin des dealers, des jeunes dealers qui dealent la barrette comme ça, dégueulasse d'ailleurs, c'est même pas du bon shit. Et ils sont en dessous des caméras. Eh ben, ils y sont toujours, ils y seront toujours. Alors la caméra, c'est vrai que des fois, tu rigoles, tu te dis mais à quoi elle sert. Ils sont entourés de caméras, ils sont juste en dessous. Et puis, il suffit de connaître un peu le quartier. Hein, tout le monde va là, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un commerce illicite comme ça qui se fait. Je sais pas s'il y a que du shit d'ailleurs. Mais voilà, ouais. Mais ils mettent quand même des caméras de partout. Hein, les caméras, elles servent au moment où ils en ont besoin. C'est vrai que quand t'as une manifestation place des terreaux qui tourne mal, soit ça peut te sauver la mise, parce que en effet, on voit que les flics ont dérapé, ou soit souvent c'est l'inverse en fait. C'est les flics qui se servent de la caméra. Bon, ça a sauvé un peu la vie à une copine une fois, enfin la vie. Ça lui a sauvé la mise. Elle a fait un peu plus, elle se prenait 3 ou 4 mois de prison ferme pour violence contre un agent. Et en fait, ils se sont aperçus sur les caméras qu'elle n'était pas là. Elle était à l'autre bout de la place. Et voilà, quoi. Donc, heureusement. Mais non, mais sinon, ces caméras, c'est pareil. Hein. Il y a un truc qui s'appelle Big Brother. Non, un Big Brother. Voilà, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles, contre lesquelles on a lutté. Et bon, par exemple, nous, on a fait les autocollants. Ah, ben, il y a Radio Canu aussi, mais ça... Hein. Et puis il y avait un truc, alors ça c'est pareil, c'est historique, ça s'appelle Stop Viol. C'est pareil, c'est comme les Brigades Rousses, c'est un truc qui était inédit et très important sur le quartier, et une volonté de tous, de tout le groupe qu'on était, enfin même avant moi, parce que même avant que j'arrive, y a eu une époque à la Croix-Rousse en effet où il y a eu des viols à répétition. Et donc il y a un collectif de filles qui a commencé à se réunir et qui a monté un réseau téléphonique avec un numéro fixe et où on pouvait joindre en permanence quelqu'un qui était apte à répondre, donc qui avait la possibilité d'accueillir une personne qui s'était fait violer. Et c'est un collectif qui a duré pendant au moins 5-6 ans, moi je pense, hein, peut-être plus. Et ça a été très important dans le sens où d'abord... cette violence faite aux femmes s'est calmée dans le quartier, la vigilance a été beaucoup plus importante et en effet, mine de rien, elle recevait de tout Lyon, parce qu'alors elle faisait des autocollants bien sûr, et qui ont été faits ici mais pas par moi, qui étaient collés dans tout Lyon, et voilà, ça a permis aussi ça fait partie d'une dynamique d'organisation, d'auto-organisation, c'est-à-dire plutôt que d'appeler les flics, appeler Stop Viol, tu vois. Parce que les flics, à l'époque, enfin, moi, je sais pas, ma copine, elle a pas été violée, mais victime d'une agression, elle avait peur d'aller au commissariat, tu vois, se plaindre. Là, t'avais une personne qui était à l'écoute derrière, et qui savait vraiment comment réagir. Voilà. Bon, c'est aussi un réseau qui a périclité, mais ça, bon, avec le temps, tout passe. Hein.